Le magazine des Nations Unies.
Bonjour, bienvenue à ce nouveau numéro du magazine des Nations Unies et merci de nous recevoir chez vous. Tout de suite, les titres. Promouvoir et consolider l'autorité de l'État dans les zones jadis occupées par le M23, c'est l'une des priorités du moment et la MONUSCO va jouer son rôle dans ce processus. Martin Kobler, vous allez le suivre, l'a dit à partir de Goma au cours de la conférence de presse des Nations Unies mercredi dernier. Booster l'économie de la province orientale en y attirant des investisseurs et des opérateurs locaux, c'est tout l'intérêt de la table ronde économique qui vient de se tenir à Kisangani avec l'appui financier et technique du PNUD. Enjeu et attente de ce grand forum économique, c'est dans cette édition. Expliquer le statut des personnes relevant du mandat du Haut Commissariat pour les réfugiés HCR aux acteurs locaux du territoire de Fizi dans la plaine de Ruzizi, c'est la tâche d'une mission conjointe en séjour la semaine dernière dans cette contrée. Explication, ce sera dans notre rubrique Nouvelles dans province.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Bonjour, après le succès militaire sur le M23, l'heure est maintenant à la restauration de l'autorité de l'État dans les zones libérées. C'est l'un des messages forts annoncés mercredi dernier par le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en RDC. Le chef de la MONUSCO a aussi évoqué la problématique du processus de Kampala qui, selon lui, doit se poursuivre et aboutir absolument à une résolution politique de la crise. Suivez plutôt ce condensé de nos
À partir de Goma, désormais devenu, selon ses propres termes, le centre de gravité de la MONUSCO, Martin Kobler est entouré de son adjoint chargé des opérations dans l'Est, le général Abdelawafi, du commandant des forces de la MONUSCO, le général Carlos Alberto dos Santos, et du chef de la MONUSCO, Nord Kivu. Nous revenons maintenant, le général et moi, tout à l'heure, de la zone de la frontière entre le Rwanda, l'Ouganda et la RDC, attaque Martin Kobler. Le chef de la MONUSCO dit aussi y avoir parlé avec la population locale, notamment à Kibumba, mais surtout y avoir vu des visages rayonnants de joie après avoir été libérés des combats. Désormais, poursuit le représentant spécial, il appartient au gouvernement congolais de travailler à la restauration de l'autorité de l'État dans ces zones libérées, Martin Kobler.
Nous avons aussi eu l'impression qu'il faut vraiment promouvoir la consolidation et restauration de l'autorité de l'État dans les zones qui sont libérées. Je suis heureux de vous dire, nous avons toujours dans nos conférences de presse hebdomadaires un point spécial, restauration, restitution de l'autorité de l'État et le rôle de MONUSCO.
Et par rapport à l'autorité de l'État, le général Abdelawafi révèle ce qui a été déjà fait, ce qui est prévu et le rôle de la MONUSCO dans son processus.
Tout de suite après le départ du M23, l'administration civile territoriale a été réinstallée. Au niveau de la police nationale congolaise, la police de la MONUSCO a appuyé le plan d'urgence de déploiement de la PNC. Près de 200 éléments de la police nationale congolaise ont été redéployés dans ces zones. La semaine dernière, j'ai eu une rencontre à Kinshasa avec toute la hiérarchie de la police nationale congolaise et la police de la MONUSCO pour pouvoir voir comment nous allons les appuyer. Il a été retenu que 300 éléments de la PNC venant de la Légion nationale d'intervention vont être déployés pour appuyer la PNC du Nord Kivu. La MONUSCO s'est engagée à faire un pont aérien pour transporter ces 300 éléments de Kinshasa sur Goma et ensuite, à partir de Goma, appuyer leur déploiement selon le plan qui a été fait avec la PNC. En plus de ces 300 éléments, près de 900 autres policiers venant des autres provinces vont converger vers Goma pour être redéployé dans toutes ces zones, que ce soit à Kiwanja, Rutshuru ou Rumangabo et pourquoi pas dans d'autres territoires pour pouvoir renforcer la présence de l'autorité de l'État.
L'autre sujet phare du jour, le processus de Kampala. Martin Kobler regrette que les discussions n'aient pas encore abouti à la signature d'un compromis entre les deux parties. Pour lui, si on veut une paix durable dans l'est de la RDC, il faut, après la victoire militaire des FARDC, une solution politique pour faire revenir au pays les ex-combattants du M23. Tout en sachant, insiste le chef de la MONUSCO, qu'il n'y aura pas d'amnistie pour ceux qui auront commis des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, y compris les violences sexuelles et l'enrôlement d'enfants.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Hier, samedi, la communauté internationale a commémoré la journée de la tolérance. Julien Attakla travaille au bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Il décortique pour nous ce concept en délimitant les contours, les causes et les implications de ce concept dans la vie sociale. Il s'entretient avec Jean-Pierre Elali Coco. Suivez.
Julien Attakla, bonjour.
Oui, bonjour.
La communauté internationale a célébré hier samedi la journée de la tolérance. D'abord, qu'est-ce que c'est la tolérance et pourquoi les Nations Unies ont-elles institué cette journée en 1995?
La tolérance, en fait, peut être définie de manière très simple comme étant l'acceptation de l'autre. L'acceptation de la différence. Entendez, la différence de langue, la différence de culture, la différence de religion, la différence d'ethnie, la différence de conviction politique, voilà, toutes sortes de différences, il faut qu'on puisse les accepter et les gérer pour vivre en bonne intelligence et en bonne entente. La raison qui a amené un certain nombre d'États, le 16 novembre 1995, à l'occasion du 50e anniversaire de l'UNESCO, les États membres de cette organisation ont adopté une déclaration de principe relatif à la tolérance. Parce que sans tolérance, on ira de conflit en conflit et le monde ne connaîtra pas la paix.
Est-ce qu'il y a des limites quand même pour la tolérance?
Certainement, les limites sont établies par les lois et les règlements. Et c'est pour cela que, dans la déclaration qui avait été adoptée en 1995, les États ont insisté sur le fait que c'est la responsabilité de chaque État de promouvoir les droits de l'homme, d'accord, d'ériger les règles et les principes, d'accord, qui doivent permettre d'apprécier et de savoir à partir de quand l'un ou l'autre est en train de dépasser les normes, d'exagérer, et à partir de quand on est vraiment dans un cadre social, sociétal, j'allais dire, où vraiment la personne a le droit de faire ce qu'elle fait. Voyez-vous, au jour d'aujourd'hui, lorsqu'il y a situation de crise économique, voilà, de problèmes, de difficultés, tout de suite, il y a une montée de xénophobie, il y a une montée aussi de récrimination contre l'autre. On cherche toujours le bouc émissaire, on devient moins tolérant. C'est l'étranger ou c'est enfin le voisin ou c'est, je sais pas, voyez-vous, c'est pour ça que la tolérance est toujours conseillée pour pouvoir vivre en paix et en harmonie.
Quels sont les facteurs qui peuvent favoriser la tolérance dans un pays en conflit comme la République démocratique du Congo?
Le premier facteur, je dirais de l'énoncer, ce sont les lois et les règlements. Il est important que dans chaque État, il y ait des lois et des règlements qui définissent les comportements qui sont acceptables et les comportements qui ne sont pas acceptables. Deuxièmement, il y a également l'éducation. Les lois à elles seules, les règlements ne suffisent pas dans un pays. Il faut de la sensibilisation, il faut informer et faire connaître ces règles aux gens.
Et surtout la jeunesse congolaise.
Absolument, la jeunesse et pas seulement la jeunesse, toutes les catégories socio-professionnelles. Mm-hmm. Parce que on apprend toujours, il y a toujours des limites à ce que l'on connaît, à ce que l'on sait. Comme dit un proverbe africain, tout ce qu'on sait n'est qu'une partie de tout. Donc il faut toujours chercher à savoir davantage. Autre facteur important, c'est l'accès à l'information. Vous savez qu'il y a, dans certaines situations, beaucoup de gens qui n'ont pas la vraie information. Et donc, ceux qui ont un minimum d'information peuvent utiliser les chiffres, les statistiques, pour manipuler l'opinion et pour faire passer des idées qui ne sont pas vraies. Donc, il faut que les gens aient accès à l'information vraie pour ne pas se faire manipuler et comprendre. Il y a également la promotion, je vais dire, d'une prise de conscience individuelle. Parce qu'on ne peut pas lutter contre l'intolérance sans que chacun prennent conscience et sachent vraiment la juste mesure des choses et ne puissent pas vraiment développer un sentiment, soit régionaliste, un sentiment de xénophobie ou lié par exemple à la haine ethnique. Voilà, donc ça c'est important que les gens soient amenés à prendre conscience individuellement. Et il y a également l'aspect des solutions locales qu'il faut trouver aux différents problèmes qui se posent. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous savez que de plus en plus, on est dans un monde, vraiment, un univers qui se mondialise et où chaque fois qu'il y a un petit problème, quelque part, il y a des répercussions, on doit être créatif et chercher des solutions aux problèmes au niveau local. Et ne pas tout le temps penser que, bon, voilà, le problème vient d'ailleurs. On doit chercher quelles solutions on peut trouver de manière pacifique aux problèmes que nous avons.
Mais quelles sont les causes de l'intolérance, Julien?
Les causes de l'intolérance, souvent, c'est, comme je l'ai dit, le manque d'informations. La peur aussi.
La peur de qui? De quoi?
La peur de l'autre, la peur de perdre quelque chose que l'on a. Vous voyez, par exemple, il y a beaucoup de pays au jour d'aujourd'hui, pas seulement européens, même en Afrique, où l'immigration est un problème. Je ne vous nomme aucun pays, mais si vous décidez, par exemple, d'aller vous installer dans un pays qui n'est pas très loin de la RDC, pour pouvoir faire bonne fortune, où il y a vraiment des ressources naturelles qui sont exploitées, le pétrole, etc., vous êtes refoulés. Il y a beaucoup de Congolais qui sont refoulés de l'Angola. Pourquoi est-ce qu'on les rejette? Prenez l'Afrique du Sud. Il y a pas seulement des Congolais, mais différentes nationalités africaines qui essaient de s'installer en Afrique du Sud et qui sont régulièrement refoulées. Donc, déjà, ces pays ont leurs propres problèmes de chômage, et donc ils voient l'arrivée de l'étranger comme étant un facteur qui va les empêcher de garder le minimum ou de jouir du minimum qu'ils possèdent déjà. Donc à partir de ce moment, il y a une certaine intolérance qui se développe.
Quels sont les moyens pour combattre justement cette intolérance dans le monde?
Il y a beaucoup de moyens. Je pense que c'est d'abord la responsabilité des États de prendre conscience des types d'intolérance qui prévalent dans leur société et de légiférer, donc d'édicter des règles, des lois. Ça peut être des lois, mais ça peut être aussi simplement des règlements, ça dépend du niveau auquel la règle en question a été édictée, pour pouvoir prévenir les excès, pour pouvoir décourager des intolérances qui peuvent conduire vraiment à des violations graves de droits de l'homme.
Julien, pour terminer, dans le langage politique congolais, s'agissant justement de la corruption ou même des violences sexuelles, on évoque souvent les concepts de tolérance zéro. Quel rapport y a-t-il entre tolérance zéro et la tolérance comme vertu?
Oui, il y a quand même une nuance. Lorsque nous célébrons la journée de la tolérance, c'est qu'on demande à chaque citoyen d'accepter l'autre. L'autre, entendu, pas forcément comme Congolais, mais l'autre, tout simplement. Ça peut être un étranger, ça peut être quelqu'un d'une autre religion, d'une autre ethnie, quelqu'un qui a une opinion politique différente. Il faut accepter l'autre.
De l'autre, oui.
Ça, c'est une assertion, c'est un sens du mot tolérance. Mais lorsque l'autorité, lorsque le gouvernement, par exemple, le président de la République dit, désormais, ce sera tolérance zéro par rapport à telle chose. Là, ça veut dire que le gouvernement mettra en œuvre toute une batterie de mesures pour empêcher que cette infraction ou cette violation des droits de l'homme, quand il s'agit des violences sexuelles, par exemple, ou autres, ne puisse continuer à se perpétuer ou à se répéter. Donc, la tolérance zéro, dans ce cas, c'est une manière de dire, le gouvernement ne permettra plus. Et c'est une politique, en fait. La politique tolérance zéro, c'est une...
Mais là, ça est devenu comme un slogan, ici, chez nous.
Ben, c'est un slogan, mais qui reflète un souhait, une politique qui est mise en œuvre par le gouvernement pour pouvoir encourager les gens vers une attitude, décourager une autre attitude. Voilà à peu près comment on peut le dire.
Julien, je vous remercie.
Nos nouvelles en bref à présent, l'UNICEF pourra atteindre plus de 800 000 personnes déplacées dans l'est de la RDC. C'est ce qu'indique un communiqué de presse conjoint Eco-UNICEF du 13 novembre dernier. La directrice générale pour l'aide humanitaire et la protection civile de la Commission européenne, Eco, accroît donc ses financements en faveur de l'UNICEF pour assurer l'assistance aux enfants affectés par les conflits armés, les catastrophes naturelles et le choléra dans l'est du pays. Le communiqué précise à cet effet qu'Eco a fait une donation de plus de 8 millions de dollars américains pour le mécanisme de réponse rapide aux mouvements de population. Restons toujours à l'est de la RDC pour signaler que UNMAC a renforcé ses campagnes de sensibilisation dans le Nord Kivu. Objectif, informer la population sur les dangers que représentent les résidus explosifs de guerre afin d'encourager les populations locales à adopter des comportements responsables et éviter les accidents. Enfin, lancement lundi dernier à Kinshasa de la première édition du concours interuniversitaire d'art oratoire sur les droits de l'homme, organisé par le ministère de la Justice, avec l'appui notamment du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Au moins 7 institutions universitaires de la capitale devaient compétir à cette épreuve. Objectif du concours, familiariser les jeunes universitaires aux droits de l'homme. Au menu de ce test, un sujet de dissertation sur les droits de l'homme, une émission Génie en herbe et un projet sur ces droits. La remise des prix aux lauréats aura lieu le 10 décembre 2013 lors de la célébration du 65e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme.
Magazine des Nations Unies, bien vite.
3 jours durant, soit du 13 au 15 novembre, la ville de Kisangani, capitale de la province orientale, a vibré au rythme de la table ronde économique. Ce forum, initié par le gouvernement provincial, avec l'appui financier et technique du PNUD, a connu la participation très significative des opérateurs économiques privés, nationaux et étrangers, des pouvoirs publics et des agences des Nations Unies intéressées au développement de la province. Yolande Ebongo et Nelly Kankolongo, respectivement économiste nationale, chef de bureau du PNUD Kisangani et conseillère au programme économique Pilier Croissance Inclusive au PNUD, parlent de l'intérêt des enjeux de cette rencontre et surtout de l'appui du PNUD à l'économie de la province. Elles s'entretiennent avec Jean-Pierre Elali Koko.
Mesdames Yolande Ebongo et Nelly Kankolongo, bonjour.
Bonjour.
Il s'est tenu du 13 au 15 novembre la table ronde économique de la province orientale. Madame Nelly, quel est l'objectif de ce forum et quels en sont les enjeux?
Il faudrait préciser d'abord que cette table ronde vient à la suite des concertations qui ont été faites entre le gouvernement provincial, le 8 juillet à Kinshasa, avec les partenaires au développement et le secteur privé. Et cette journée d'information avait pour thème bâtir un partenariat dynamique pour un développement durable de la province orientale. Alors, la table ronde qui s'est tenue du 13 au 15 novembre avait pour objectif principal de susciter un double intérêt, celui d'amener les partenaires au développement à financer les programmes issus des différents secteurs que le gouvernement provincial avait déjà élaboré et susciter l'intérêt des opérateurs économiques pour la réalisation des projets d'investissement qui vont contribuer au bien-être socio-économique de la province orientale. Oui, les enjeux, en fait, c'est d'abord la capitalisation des résultats de la table ronde pour enclencher le processus de développement de la province et le rôle de la province en tant que pôle de développement dans la RDC et sa contribution à la relance économique de la province en particulier, de la RDC en général.
Alors, Madame Yolande, on peut connaître la qualité des participants qui prennent part?
C'est quand même une qualité prestigieuse, si je peux le dire, d'autant plus que nous avons l'honneur de recevoir au milieu de nous les personnalités qui viendront du niveau national, notamment les ministres nationaux des hydrocarbures et même de l'intérieur qui pourront être là avec nous. Nous avons les membres de l'organe délibérant au niveau national, les sénateurs et les députés nationaux, les députés nationaux et responsables des structures nationales, tels que ANAPI, la cellule des infrastructures, le guichet unique de création des entreprises, le comité de pilotage pour l'amélioration du climat des affaires, le FPI. Il y a également les experts du ministère du Plan. Du côté des partenaires bilatéraux et multilatéraux, nous avons la présence des ambassadeurs qui commencent déjà à arriver, des responsables des agences de coopération multilatérales telles que la Banque mondiale, la BAD, des agences du système des Nations Unies, le PNUD notamment qui est là. Nous avons la présence des entreprises locales notamment, mais aussi il faut dire qu'il y a des entreprises étrangères des divers secteurs économiques qui sont en train d'arriver au niveau de la province à Kisangani précisément.
Vous avez parlé du pôle économique qui constitue la province orientale. Alors, quel sera l'impact de ces forums au niveau national? Et vous pouvez aussi nous donner une idée sur les attentes de la population pour ces forums?
L'impact va se matérialiser progressivement. Il se verra d'abord au niveau des investissements directs étrangers, au niveau du volume des recettes fiscales et administratives, au niveau de la production des produits agricoles qui vont approvisionner la capitale et les provinces limitrophes, et au niveau du bénéfice du partenariat public-privé qui sera développé, au niveau des infrastructures et la contribution au développement de la RDC dans le processus de réalisation de la vision de développement à long terme RDC 2035. Au niveau des attentes de la population, certes, elles sont nombreuses, mais il convient de préciser que ces attentes au niveau social, économique, financier, administratif et politique, le PNUD ne peut pas seul y répondre ou les satisfaire. Le PNUD se limite à identifier les plus importants et il s'agit en fait de donner des réponses concertées en synergie avec différentes unités programmatiques du PNUD, en synergie avec les agences des Nations Unies et les autres partenaires techniques et financiers, afin que dans un programme cohérent, nous puissions donner satisfaction à toutes ces attentes.
Maintenant, Madame Yolande, quels sont les secteurs prioritaires où le PNUD peut vraiment apporter son appui dans ces domaines?
Comme cela a été dit, Jean-Pierre, les interventions du PNUD se feront en fonction des priorités arrêtées par la province et dans son plan d'action prioritaire. Et cela conformément au mandat du PNUD et à la valeur ajoutée que le PNUD doit apporter par rapport aux autres partenaires au développement.
Ah, vous parlez de la valeur ajoutée, c'est quoi?
La valeur ajoutée, si nous rentrons dans le mandat du PNUD, le PNUD est là beaucoup plus pour renforcer renforcer les capacités des acteurs étatiques. Et dans ce domaine-là, il y a une expertise vraiment outillée au niveau du PNUD pour pouvoir aider le gouvernement provincial à rehausser leur niveau intellectuel et puis d'intervention sur terrain.
Il n'y a pas de développement sans la paix et vice-versa. Madame Nelly, quel rôle peut alors jouer le PNUD dans la perspective d'un développement ancré essentiellement sur la coexistence pacifique des populations dans la province orientale?
Le PNUD va contribuer à travers ces deux piliers programmatiques qui sont l'appui à la consolidation de la paix et de la démocratie et le pilier croissance inclusive et développement durable.
Je rappelle à nos auditeurs que nous recevions là Madame Yolande Ibongo et Nelly Kangolongo, respectivement économiste nationale et chef du bureau PNUD à Kisangani et conseillère au programme économique et pilier croissance inclusive au PNUD également. Je dis à toutes les deux dames merci de votre disponibilité.
Une mission conjointe HCR, Commission nationale pour les réfugiés, s'est rendue la semaine dernière à Fizi, dans le sud Kivu, dans le but de former les acteurs locaux sur la protection des personnes relevant du mandat du HCR. Cette formation arrive à point nommé, d'autant plus que certaines personnes dans la contrée sont souvent victimes de leur statut de réfugié, rapatrié ou apatride. Jean-Pierre Elali Coco et Fiston Ngoma Mayabala s'entretiennent sur ce sujet pour notre nouvelle en province.
Bonjour Fiston.
Bonjour Jean-Pierre Elali.
Une équipe conjointe ACR, Commission nationale pour les réfugiés, est rentrée du territoire de Fizi. Quel est l'objectif de cette mission?
Cette mission avait pour but de former les acteurs locaux sur la protection des personnes relevant du mandat du ACR. La formation s'est déroulée du vendredi au samedi dernier à Fizi Centre. Le ACR voudrait résoudre les lacunes constatées dans la protection des personnes relevant de son mandat, parmi lesquels des réfugiés, des rapatriés et des apatrides. D'après l'assistant en charge de la protection, la CNR Ouvira, ces personnes sont souvent victimes de plusieurs cas de suspicion sur leur identité. Certains sont arrêtés, d'autres menacés, d'autres encore sont confrontés à plusieurs cas de conflits de terres avec le résident. Les autorités et les services de sécurité de l'État ont donc appris par des textes internationaux et nationaux comment protéger ces personnes et les assister, Jean-Pierre.
Et quelles sont, Fiston, les questions particulières relevées par les participants sur le statut de réfugié?
Beaucoup ont cherché à savoir comment distinguer les civils réfugiés rwandais et les combattants rwandais des FDLR dans la zone de leur intervention. D'après Maître Sami Mukombozi de la CNR, des réponses claires ont été données. La question des combattants rwandais des FDLR ne rentre pas dans le mandat du HCR, a-t-il dit. Ce dernier, donc le HCR, travaille avec le gouvernement congolais à travers la CNR pour identifier les vrais réfugiés qui n'ont pas touché aux armes. D'après la CNR, ces réfugiés rwandais sont nombreux et dispersés dans les vastes forêts du territoire de Fizi. Certains détiennent encore leurs documents depuis les récentes guerres de la rébellion, d'autres les ont perdus, mais sont connus des chefs locaux. Plus de 400 localisés le mois passé par la CNR dans la forêt de Lumania, dans les territoires de Fizi, ont exprimé le souhait de retourner volontairement chez eux. Certains ont commencé même à se faire rapatrier spontanément dans leur pays en passant par Bukavu. La CNR et le HCR envisagent de démarrer incessamment une opération de pré-enregistrement de ces réfugiés dans les territoires d'Ouvira et de Fizi pour leur rapatriement dans leur pays.
Merci beaucoup, Fiston.
Merci à vous.
Magazine des Nations Unies. Question aux Nations Unies.
Je vous propose la question de Denise Lukeso, notre consoeur de Radio Capi Goma, lors de la conférence des Nations Unies, mercredi dernier. Denise Lukeso.
Je suis Denise Lukeso de la Radio Capi. De plus en plus, la population de Rutshuru dénonce des cas de tracasserie qui sont commis par certains éléments des FARDC suite à la présence de ces éléments dans les zones qu'ils contrôlent. Est-ce qu'aujourd'hui, la MONUSCO est prête à aider les FARDC au cantonnement de ces éléments pour éviter que la population souffre de ces tracasseries?
Réponse du général Santos Cruz. Suivez.
The FARDC is the National Armed Force and they had a victory in they liberate this area of the country.
Les FARDC sont l'armée nationale et à la suite de cette victoire, il leur faut à présent se redéployer et repositionner leurs troupes. C'est normal. Je ne crois pas qu'ils laisseront leurs troupes dans les positions qu'elles tiennent actuellement. Ils ont un plan pour redéployer la plupart de leurs troupes qui sont actuellement dans les endroits que nous mentionnons. La MONUSCO a une coordination avec les FARDC et nous soutenons les FARDC politiquement et nous appuyons logistiquement les FARDC. Et dans très peu de temps, nous allons entamer cette coordination pour le repositionnement des troupes.
Support FARDC politically.
La réponse du général Santos Cruz a été traduite par le chef de la MONUSCO, Nord Kivu.
Magazine des Nations Unies. Portrait du jour.
Je réponds au nom de Michel Kimpwene Misha. Je suis célibataire, pas encore d'enfant. Et plusieurs fois tante, ça au moins je peux le dire. J'ai fait mes études universitaires à l'Université catholique du Congo, où j'ai décroché un diplôme de licence en communication sociale et en option éducommunication. Ce que je fais au PNUD, je suis associée à la communication pour le pilier CIDD, croissance inclusive et développement durable du PNUD RDC. Je suis au PNUD depuis août 2012, 10 ans, 1 an et 3 mois déjà. De manière générale, j'appuie les différentes composantes en ce qui concerne la visibilité de leurs actions, de leurs activités, ainsi que dans la planification de ces dites activités. Alors, juste après mes études universitaires, j'ai travaillé pendant 3 mois dans une entreprise privée qui œuvre dans la sécurité électronique des entreprises et de certains organismes. Et après cela, j'ai postulé et j'ai été recrutée comme volontaire des Nations Unies travaillant pour le compte du PNUD. Mon temps libre. Bon, le plus souvent, je réponds à mes engagements en paroisse parce que je suis chrétienne catholique. Nous organisons pas mal d'activités des jeunes le week-end en paroisse. Aussi, les promenades. Oui, c'est toujours génial, j'aime bien les promenades. Voilà en gros un peu ce que j'aime, ce que je fais en mon temps libre. En musique, je crois que je ne suis pas très sélective. Tout sonne agréable à mon oreille et associé à cela un beau texte, ça me fait du bien, ça me plaît. Que ça soit du jazz, du rap, du reggae, du R&B, de la rumba, ça me fait bouger, ça me fait danser, même si je ne sais pas danser. On se moque souvent de moi quand je danse. Quant au sport, ouf, j'ai été une très mauvaise élève en éducation physique. Alors je crois que je dois m'y mettre. Je crois vraiment que je dois m'y mettre, mais je suis passionnée à voir les gens jouer au tennis. Et je crois que jusque-là, c'est le tennis qui commence vraiment à m'intéresser et je vais m'y mettre. Quant au mets, Michel est une bouffe-tout, hein. Elle est une bouffe-tout, mais je crois qu'elle ne résisterait pas devant une assiette de poisson frais et des bananes frites ou faites à la vapeur. À ça, elle ne résisterait pas. Projet d'avenir, Michel se voit à la tête d'une agence conseil en communication qui va accompagner les différentes entreprises, organismes et organisations dans l'organisation de leurs activités, de leurs événements. Alors, cette agence sera spécialisée en ce qui concerne la communication institutionnelle, en ce qui concerne l'événementiel. Et par là, on voit les forums, on voit les portes ouvertes, on voit les campagnes de changement de comportement. Aussi, dans tout ce qui est lobbying, hein, tout ce qui est plaidoyer. Donc, Michel se voit à la tête d'une agence indépendante et en communication. Merci.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Capi.
Quelques rendez-vous à retenir dans vos carnets pour la semaine qui commence. Il y a d'abord l'arrivée à Kinshasa d'une délégation du FMI. La mission de cette délégation ira du 18 au 22 novembre. Il y a aussi ces journées. Le 19 novembre, la journée mondiale pour la prévention des abus envers les enfants. Le 20 novembre, la journée internationale des droits de l'enfant. Et le 21 novembre, la journée mondiale de la télévision. La fin de cette émission. Je vous remercie de l'avoir suivi au nom de l'équipe tout entière qui vous l'a concoctée. Mila Kimbuni au micro, Hippolyte Kapanga à la régie, Honoré Nissenga au reportage, Jean-Pierre Elali à la coordination et Nicole Ngaka à la supervision. Une émission à écouter à tout moment sur notre site www.radiookapi.net. Vous avez une préoccupation par rapport à cette émission? Contactez-nous en appelant au 082 30 766 30 082 30 766 30. Vous pouvez aussi nous écrire à notre adresse mail magun@radiookapi.net ou nous laisser vos questions sous forme de commentaires sur notre site internet en dessous de l'émission. Nous prenons donc rendez-vous avec vous la semaine prochaine. Entre-temps, je vous souhaite une excellente journée dominicale à tous.